On estime que le quart de la population des pays pauvres a une ration de protéines inférieure au minimum. Ce déficit alimentaire a des conséquences particulièrement graves, puisqu'il peut provoquer des altérations irréversibles de l'organisme. L'orientation actuelle des productions agricoles, dont la célèbre révolution verte, ne peut vaincre les importantes carences protéiques des pays qui souffrent de malnutrition. En effet, les céréales sont pauvres en protéines et l'élevage, détourné vers des objectifs essentiellement commerciaux, entre en compétition alimentaire avec l'homme. On consomme 3 kg de céréales pour obtenir 1 kg de poulet, 6 pour 1 kg de porc, 16 pour obtenir 1 kg de bœuf. Dans de telles conditions, l'élevage ne peut se justifier que si les animaux consomment des déchets ou des végétaux impropres à l'alimentation humaine. Il existe pourtant dans ces pays des ressources protéiques importantes, apportées essentiellement par les légumineuses. Avantage immédiat, elles sont adaptées à des biocénoses très variées grâce à leur cycle court, leur croissance rapide, leur autonomie en azote. La teneur moyenne en protéines de leurs graines est 2 à 3 fois supérieure à celle des céréales. Et de plus, elles contiennent des acides aminés et des sels minéraux, indispensables à l'alimentation humaine. Elles constituent donc un capital précieux en protéines végétales. Malheureusement, 2 grandes menaces pèsent sur l'existence de leur culture. L'extension systématique d'une agriculture de rapport et l'agression d'insectes ravageurs, tels que la bruche sur le haricot. Les dégâts causés peuvent entraîner de graves disettes momentanées. En effet, les habitudes alimentaires de nombreux pays pauvres, comme l'Amérique latine, sont basées sur la consommation du haricot. L'Institut de biocénotique expérimentale des agrosystèmes a mis en place des terrains d'études pour examiner l'écologie des bruches nuisibles. Une connaissance approfondie de leur biologie pourrait ouvrir vers des moyens de lutte préventifs, les méthodes curatives insecticides s'avérant en effet peu adaptées. Dans le marais Poitevin, c'est vers septembre qu'a lieu la récolte des haricots, Phaseolus vulgaris. Les graines sont alors apparemment saines. Au printemps, cependant, des taches translucides circulaires apparaissent sur les téguments. Chacune correspond à un opercule que découpe la bruche Acanthocelides obtectus pour sortir de la graine. Quelques individus s'accouplent. Et certains s'envolent vers l'extérieur. D'autres adultes, restés sur le stock, pondent sur les graines. l'envol se poursuit vers la lumière. Les premiers œufs pondus donnent naissance à des larves de premier stade. Elles explorent les graines, perforent le tégument et pénètrent dans les cotylédons où a lieu le développement post-embryonnaire. La larve de dernier stade façonne dans la graine une logette nymphale. Elle la tapisse de sécrétions riches en urate, rendant les lots contaminés inconsommables. Vient ensuite la nymphose. Cette deuxième génération laisse les stocks très endommagés. Si les conditions étaient en permanence favorables, Acanthocelides obtectus pourrait produire ainsi jusqu'à 10 générations annuelles. L'anéantissement des stocks est assuré. Au passage, remarquons que, protégées comme elles le sont, sous les téguments, ni les larves ni les nymphes ne peuvent être atteintes par les insecticides. Seul l'adulte est vulnérable. Mais quand il apparaît, le ravage est fait. Et en plus, les graines restent polluées. On comprend pourquoi les insecticides sont inefficaces pour enrayer cette explosion démographique. Il faut en fait poser le problème d'une contamination des graines avant leur récolte. En effet, au début de l'été, on trouve des bruches près des champs de haricots, consommant le pollen de diverses fleurs. À cette époque, les gousses sont encore vertes, et on découvre des bruches dissimulées dans des feuilles sèches. Cette constatation fait tomber l'argument qui classait jusque-là la bruche parmi les insectes dits de denrées entreposées. Plus tard, on redécouvre la femelle, prospectant les gousses mûrissantes, particulièrement le long de la suture ventrale. Au moment de la maturité, elle perfore la gousse avec ses mandibules, se retourne, introduit son ovitube et pond au contact des graines. La cicatrice de l'attaque reste difficilement repérable. Dès l'éclosion des œufs, les larves pénétreront dans les graines. À la récolte, tout est joué. Le cycle des bruches est déjà recommencé. C'est au laboratoire que l'on tente d'élucider le problème de la prolifération sur stock et des facteurs pouvant intervenir sur ce phénomène. Il est donc intéressant d'analyser l'évolution de l'activité ovarienne d'Acanthocelides obtectus. La dissection des femelles et l'étude de leur appareil reproducteur en fonction de l'âge permet de suivre le développement des ovocytes dans les ovarioles, puis leur passage dans les oviductes latéraux où ils s'accumulent avant la ponte. Cette production, c'est-à-dire le nombre d'ovocytes formés pendant un temps donné, évolue différemment selon que les femelles sont vierges ou fécondées et laissées ou non en présence de graines ou de gousses de haricots. La production ovarienne présente toujours une certaine variabilité concrétisée par cet histogramme. Dans le cas de femelles inséminées et laissées en présence de graines ou de gousses, on constate que cette production s'accroît rapidement. Elle est nettement plus élevée que celle de femelles vierges laissées en absence de graines. Et que celle de femelles fécondées, laissées également en absence de graines. Dans ce cas, les résultats expérimentaux présentent une certaine variabilité entre les générations. Il est clair que la présence de graines ou de gousses stimule l'ovogénèse et la ponte des femelles. L'explosion démographique sur stock est alors explicable, et l'on peut inférer qu'il suffit de quelques pontes dans un champ de haricots pour provoquer des ravages catastrophiques. Cette installation dans un grenier a été conçue pour piéger les bruges pendant leur migration, afin de déterminer les facteurs qui provoquent leur départ et les orientent vers les champs de haricots. Il se peut en effet qu'un moyen d'information à distance intervienne dans le repérage de la plante hôte. Aucune étude n'a encore été entreprise dans le domaine de la vision et de la reconnaissance éventuelle de couleurs. En revanche, le rôle de l'olfaction a été mis en évidence. Rôle plus vraisemblable puisque de nombreux végétaux émettent des odeurs spécifiques que reconnaissent les insectes phytophages. L'olfactométrie permet d'étudier le comportement de la bruche en présence d'un stimulus odorant. Dans cette expérience, on offre aux femelles un choix entre air pur et air chargé d'odeurs de parties vertes de haricots. Lorsqu'elles sont fécondées, les femelles choisissent en majorité de se diriger vers le courant d'air odorant, à droite. Ce comportement conduit à étudier l'activité électrique de l'antenne. La mise en place des électrodes est une opération délicate, compte tenu de la dureté du tégument. Lorsqu'un courant d'air chargé d'odeurs de gousses vertes passe sur l'antenne, on peut enregistrer une réponse électrique. Elle est caractérisée par un phénomène de dépolarisation dû à l'excitation de récepteurs sensoriels abondants au niveau de l'antenne. Puisque la bruche repère la plante hôte à son odeur, il est alors possible d'envisager des méthodes de protection des cultures, soit en utilisant un masquage chimique pour perturber la reconnaissance du haricot, soit en cultivant le haricot en association avec d'autres plantes, comme le maïs, qui, en modifiant l'environnement, rend plus difficile la découverte des gousses par les bruches. Ces techniques, en réalité ancestrales, sont encore couramment pratiquées. Elles sont représentées ici sur une poterie du 19e siècle. Parvenue sur un substrat, la femelle cherche à l'identifier par gustation. La salive qu'elle émet semble jouer un rôle dans le processus d'identification du lieu de ponte. Ce sont les palpes, et surtout les palpes maxillaires qui interviennent dans cette gustation. Il existe à leur extrémité de nombreuses sensilles réceptrices formant un ensemble d'environ 20 microns de diamètre. Il semble qu'à ce stade d'identification, certains récepteurs des antennes interviennent également tant pour les graines que pour les gousses. D'autre part, lors de la ponte, la femelle utilise activement son ovitube pour explorer encore le substrat. Cet ovitube, en effet, porte des récepteurs. Une étude électrophysiologique permet de recueillir une activité électrique sur certaines soies. Les potentiels d'action laissent supposer qu'il pourrait exister une réponse spécifique à la présence de l'eau. Ceci expliquerait que les femelles ne pondent pas dans les gousses vertes très humides. Les soies les plus longues sont tactiles, d'autres sont gustatives. Dans la dernière phase, ce sont des soies mécanoréceptrices qui permettent à la femelle de déterminer l'emplacement exact où l'œuf sera déposé dans la gousse. Ce comportement permet d'envisager une méthode de lutte consistant à séparer au plus tôt les œufs des graines, ce qu'on peut obtenir par la récolte des gousses dès leur maturité et l'écossage rapide. On a constaté par ailleurs qu'au-dessus de 30 degrés, la mortalité larvaire de la bruche était très importante. Un stockage dans de telles conditions de chaleur peut considérablement diminuer la prolifération dans les stocks. Tous ces modes de lutte ne sont pas généralisables. On sait que la bruche du haricot n'est pas d'origine européenne, puisqu'elle doit passer par les stocks pour survivre en hiver. Elle occupe en réalité une vaste aire de répartition dans toute l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Or, dans ces écosystèmes variés, les caractéristiques physiologiques et génétiques d'Acanthocelides obtectus sont très différentes. Quiescence reproductrice en absence de graines, comme en Colombie, inhibition du développement ovarien en présence d'un congénère au Rwanda et au Burundi, diapause reproductrice au Mexique. Face à cette situation très complexe, il devient malheureusement impossible d'exporter des méthodes de lutte établies pour une région donnée. Il en va de même pour d'autres espèces de bruchidés qui ravagent également l'importante ressource protéique que représentent les légumineuses alimentaires. En Afrique, Bruchidius atrolineatus se développe dans les graines du niébé, très consommé au Sahel. La femelle colle ses œufs sur les gousses mûres ou sur les gousses vertes. En Amérique latine, Zabrotes subfasciatus colle directement ses œufs sur les graines de haricots. Il est donc très difficile de les éliminer mécaniquement. Certains hyménoptères parasitent les larves, comme ici chez Callosobrucus maculatus. Mais avant d'être atteintes, elles ont déjà ravagé les graines. Il est donc encore difficile d'envisager une méthode de lutte biologique, et c'est plutôt avec les hyménoptères oophages de Bruchidae qu'une lutte pourrait être plus efficace. Il reste énormément à faire pour bien comprendre les mécanismes et les conditions de contamination de nombreuses légumineuses. Connaissance qui ouvrirait vers la recherche de méthodes de protection mieux adaptées que l'utilisation d'insecticides. Ainsi, les bruches, dont la biologie avait été systématiquement délaissée, peuvent fournir des modèles méthodologiques en vue de réaliser une lutte efficace. Cependant, il ne peut y avoir de méthode unique. Une approche intégrée est indispensable, incluant les connaissances des biologies, de l'insecte et de la plante. Prétendre en effet passer à une protection efficace en faisant l'économie de cette démarche écologique serait une mystification.